Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec moi, mes comparses habituels. Nous avons Rémi, nous avons Vincent, nous avons Nicolas. Salut les gars, comment allez-vous?
Yo tout le monde.
Salut, bon,
ça va. Tranquillement.
Bah, comme, ouais. Comme un groupe de fans de basket qui ont vu des super finales. Voilà.
Exactement.
C'est vrai que les finales valaient vraiment le coup, ouais.
C'est vrai que le week-end dernier était bon pour les fans de basket. C'est d'ailleurs le programme du jour. On va revenir sur les demi-finales. Ensuite, on fera un petit tour par la petite finale fort intéressante entre les USA et le Canada. Et on finira par la finale. Les gens l'ont déjà vu. D'ailleurs, si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, vous avez pu voir qu'on était très bons en preview et en pronostic. Puisque on avait Vincent et moi qui avions envoyé les USA et le Canada en finale. Bah, c'était la petite finale. Et il n'y a qu'une seule personne qui a trouvé la Serbie. C'est Nico. Bien joué, Nico.
Pas la Serbie, c'était l'Allemagne, mon petit pote.
Non, c'est la Serbie que t'as dit.
Non, c'est l'Allemagne.
L'Allemagne. Ah, ouais, possible.
Il voyait Canada-Allemagne en finale.
Ah oui, c'est ça. Exact.
Il a pas
toutes mes prédictions. Toutes mes prédictions sont sur l'Allemagne sont arrivées.
Ce sont réalisées.
Le réveil de Schröder. Enfin, on va en reparler, mais incroyable.
D'ailleurs, moi, j'avais pronostiqué un petit Brandon Ingram avec un gros pourcentage et un gros scoring en demi-finale et finale. Bah, il a pas joué parce qu'il a été annoncé out à 1h du match. Donc voilà, out pour le tournoi. Bien joué, Gus. Bien joué, Gus.
Tu sens l'expert.
Allez, on s'attaque tout de suite au début de l'émission. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti. Et donc, la demi-finale qui opposait les USA face aux Allemands. Nico, je crois que vu que tu as eu un beau pronostic, il faut que tu nous racontes comment ça s'est passé un petit peu. Pour expliquer un peu les grandes lignes, c'était un super match.
Voilà, un vrai match de basket. Donc, juste pour résumer rapidement, on a eu donc une victoire allemande de 2 petits points.
Ouais.
Donc avec un gros début de match des Allemands, beaucoup de réussite au tir sur l'ensemble du match. Et les Allemands qui tiennent la tête aux États-Unis en première mi-temps, donc en faisant que des runs et remonter à chaque fois par les USA pour calmer le jeu. Et à chaque fois sur des possessions de transition, les États-Unis reviennent, empêchent de lancer ces runs. Et en fait, on se retrouve à la mi-temps, du coup, sur un match très serré. Et au retour des vestiaires, nos petits Allemands, nos voisins, qui sortent un 35-24 dans le troisième quart, avec un run de l'espace, qui tiennent le bon bout jusqu'à la fin, quoi.
Obst à la baguette.
Voilà, Obst à la baguette. Donc, ils terminent avec 24 points et 6 passes décisives en 30 minutes, et que des gros shoots. On salue d'ailleurs Haliburton qui est encore en train de glisser sur le parquet à l'heure actuelle.
Bah, il a nettoyé la salle pour la petite finale. Ouais, donc, c'est parfait.
Ça. Et juste un match de basket incroyable, plein que des gros tirs, de la grosse défense, du jeu rapide, de la finition, de l'adresse, tout ce qu'on aime. Donc parfait. Un super match. Et la victoire allemande que j'avais pronostiquée, je le rappelle.
Et encore une fois, les Allemands qui ont bien insisté dans la peinture et qui ont juste exploité le point faible. Avec beaucoup de ballons fixés à l'intérieur qui ressortent pour des tirs extérieurs et les Allemands les USA qui ont tout simplement pas défendu sur ce match, ou très mal en tout cas, sur des shooters. Et ça leur a coûté le match parce que ils ont couru après le score. On les a pas trop reconnus sur cette rencontre. Vincent, tu voulais y ajouter ?
Alors en fait, je voulais te dire que les Ricains, en fait, ils pensent que c'est l'NBA. C'est-à-dire que les mecs qui pendant 3 quarts temps ils défendent pas, puis dans le dernier quart temps ils disent ah merde, faut peut-être qu'on défende en fait quand même un peu. Puis du coup, c'est trop tard.
Sauf qu'en FIBA, c'est trop tard.
Et sauf qu'en FIBA, en fait, tu te fais niquer parce qu'en fait, il y a des joueurs en face qui ont du talent et c'est pas le même basket et au final, tu te fais niquer comme ça. Au final, moi qui ai regardé le match, je pensais quand même, parce qu'à un moment, les Ricains sont à moins 10 et là, en fait, Anthony Edwards fait un run.
Ouais.
En fait, Anthony Edwards met un 3 points, il met un panier et en fait, ça revient et je crois que ça revient à moins 3. Et en fait, quand il remet un panier, quand il revient à moins 3, là, j'ai dit, vas-y, c'est bon, ils sont sur un run. Les Ricains, ils vont faire l'effort, ils vont passer devant. Et c'est là que Hobbs met son gros shoot où il fait tomber Haliburton. Et du coup, les Allemands, ça, c'est solide et ça arrive à finir, tu vois. Mais
ça qui m'a étonné, c'est la sérénité allemande.
Ouais, de ouf. En fait, ils ont, moi, c'est
à aucun moment, ils ont paniqué.
Mais moi, c'est la sérénité allemande après le match de quart de finale contre la Lettonie où ils nous ont pas du tout rassurés, en fait.
Ah oui, carrément.
C'est ça, bon, ouais. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est ça que je trouve ouf avec l'Allemagne, c'est que déjà, de une, c'est la seule équipe qui a pas perdu un seul match du tournoi.
Ouais, c'est ils ont pas perdu un seul match. Moi, je reviens sur votre notion de sérénité, là, sur l'Allemagne. Ils ont été très sereins, mais pendant toute la compétition, j'y reviendrai plus tard dans l'épisode, mais il y a eu beaucoup de hauts et de bas à chaque fois. Des fois, ils étaient très bons et des fois, ils étaient très décevants sur des petites phases. Là, contre les USA, ils étaient plutôt plus bons que décevants, a priori.
Ouais.
Ce qui leur a coûté la victoire. Mais la sérénité, oui, mais avec des petits moments de frayeur. Tu vois, le petit moment où Anthony Edwards met un petit coup de chauffe côté USA, les Allemands, je pense qu'il y en a certains qui ont sué un peu au niveau de l'arrêt des fesses, là.
Ouais, mais c'est là où, du coup, c'est là que tu vois qu'ils sont vraiment forts, parce qu'en fait, même dans des moments comme ça, ils ont réussi à rester ensemble, en fait. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à gagner les matchs. En fait.
Ah oui, ça, par contre, le collectif, ouais, ça, il est incroyable.
Bah, ouais. Collectivement, c'est une équipe, tu vois, déjà l'année dernière, ils ont fait médaille de bronze.
Et puis le leadership.
Et donc, voilà.
Ouais.
On va clôturer sur cette demi-finale, on passe sur l'autre, parce que du coup, on va plutôt s'attarder sur les finales, quand même. Donc, ça opposait le Canada et la Serbie. Où le Canada était grand favori dans ce match, et en fait ça a été tout le contraire. On a les Serbes qui ont déroulé un basket européen magnifique avec un mouvement de balle de fou et qui ont complètement mis Shai Gilgeous-Alexander en difficulté, qui a jamais vraiment existé sur ce match, même s'il arrive à marquer quand même. Mais malgré tout, pendant la première mi-temps, il est maintenu, il est bien défendu, et en fait, bah, tout simplement, les Serbes, ils ont eu la main sur le match tout le long. Et jamais le Canada a réussi à revenir. Et en fait, on avait aussi été un peu surpris de la Serbie sur certains matchs où ils nous ont un peu déçus. Des fois, ça gagnait. Ils avaient quand même perdu un match. En vérité, là, ils nous ont montré qu'ils étaient prêts. Et qu'en fait, quand il faut serrer la vis face aux grosses équipes, ils étaient présents. Et ils ont été hyper impressionnants, hein, dans le sillage de notre cher Bojan Bogdanovic. Mais ouais, ça a été un super match. Et pour le coup, c'est la maîtrise aussi. Et à aucun moment, il y a eu des runs où le Canada a pu revenir. Il y a eu tout de suite 10 points et ça s'est jamais passé en dessous. Donc là, pour le coup, c'était un match assez intéressant côté serbe, décevant côté Canada qui n'ont pas su s'ajuster. Mais malgré tout, ça a permis aux Serbes de se qualifier en finale. Est-ce que vous voulez ajouter un petit truc rapide, les gars, là-dessus, avant qu'on passe au reste? Ou j'enchaîne?
T'en as bien parlé.
Voilà, du coup,
j'ai un petit truc à dire vite fait dessus.
Vas-y,
Nico, si tu veux, je te laisse la main.
Moi, ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est la gestion du tempo des Serbes, qui a été une totale masterclass. Parce que dès que le Canada enchaînait très vite les paniers, il y avait la petite faute qui calmait le truc, il y avait le gros stop défensif, il y avait vraiment l'application sur la gestion du tempo. Ce qui fait qu'en fait, le Canada n'a pas pu mettre en place vraiment leur style de jeu qu'on a vu tout le long de cette Coupe du Monde. Et ouais, même dans l'impact physique, j'ai trouvé les Serbes, j'avais peur, la semaine dernière, on en a parlé, que les Serbes se fassent dominer physiquement, et au final, ça a été totalement l'inverse. Plutôt surpris de la gestion du match qui a été parfaite côté serbe, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. On a les vieux briscards côté serbe qu'on réussit à davantage jouer des coudes face aux jeunes fougueux du Canada. Là. Et attention, hein, Canada, vraiment bien joué à eux, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin avec leur jeune équipe. Et au final, magnifique Coupe du Monde. Moi, ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, la Serbie, pour moi, ils ont gagné surtout grâce à leur avantage qu'ils ont à l'intérieur. Je regardais, il y a 33 rebonds face à 22. Voilà. La stat fait parler d'elle-même.
Ouais, Milutinov qui a fait un match de fou.
Ils ont eu pas mal de secondes chances aussi en deuxième mi-temps pour conforter leur avance. Donc forcément, tout de suite, puis derrière, ça a bien artillé à l'extérieur. Donc c'était fort sympathique à regarder. En tout cas, du coup, la finale que tout le monde attendait entre le Canada et les USA, au final, c'était la petite finale.
Ouais.
Un match NBA avant l'heure, on peut dire.
Ah ouais, exact.
Parce que pour le coup, en termes de style de jeu, on parlait du style européen il y a un instant. Là, comment dire que c'était full ISO, exploit individuel, avec des gros scoring. Il y a même eu prolongation parce que en fait, le Canada. Alors le Canada était devant, hein, avec un Dylan Brooks en feu sur ce match. Notre cher Dylan Brooks qui finira à 39 points, 7 sur 8 à 3 points. 12 sur 18 au tir.
Aussi détesté qu'il est,
Ouais, il a fermé des bouches sur ce match avec 5 passes et 4 rebonds. Donc, pas dégueulasse. Avec un taf de fou en défense sur Anthony Edwards. Donc, il a fait un match plutôt complet. Et en fait, les États-Unis qui reviennent sur la fin de match. Et on arrive à ce fameux moment où il y a lancé franc pour les USA à moins 3. À moins 4. Bridges met le premier, il y a moins 3. Il est obligé de louper le dernier. Et il y a cette action magnifique que Vincent va nous décrire, parce que c'est un truc qu'il aurait pu tester, ça.
vraiment raté. Bah alors, il rate le tir. Enfin, ouais, c'est aussi un petit bonheur la chance, parce qu'il rate le tir, mais il fait pas exprès que la balle rebondisse à droite, machin. Mais
là où il n'y a personne.
Ça touche
ouais,
le
mais
cirque.
Il fait l'effort d'aller le chercher, peu importe où il va. Quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Il sprint, il récupère la balle, il pose un dribble. Il sort de la ligne à 3 points, il se retourne, boum, ficelle, au buzzer. Enfin, un shoot énorme. Déjà, énorme.
Au lancer franc, il faut box out le shooter. Tout le temps. C'est la base.
Ça, tu vois. Ah oui, ça, c'est important.
Ce serait marrant de voir le fautif sur l'action. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça.
Je l'ai, justement. Je l'ai, justement. C'est Dylan Brooks qui fait un match de ouf.
Ouais, mais parce qu'après, en prolongue, il met des points encore. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis à 13 pour ça.
C'est pour ça. En fait, sur le lancer franc, en fait, il va direct, enfin, l'intérieur l'intérieur des États-Unis se fait box out. Donc, je sais plus. Je crois que c'est Kessler à ce moment-là. Je sais plus.
Ouais.
Et en fait, tu le vois, il se glisse en dessous pour récupérer la balle, sauf qu'en fait, elle part trop loin. Donc, du coup, il peut pas box out Bridges. Voilà. Donc, c'est Dylan Brooks.
Ah merde. Bon, bah, il pouvait pas tout faire. Après, il s'est rattrapé en prolongation. Mais ouais, Dylan qui a mal défendu sur ce coup-là. Il reste quand même d'ailleurs une petite pause. Il reste une seconde, je crois, pour tirer côté canadien.
0-6.
Kelly Olynyk qui a failli marquer parce qu'il passe pas loin non plus, celui-là.
Ouais.
Enfin bref, du coup, on a vu un run des États-Unis pour revenir avec ces jeux de lancer qui tournent en leur faveur suite à ce gros shoot spectaculaire. C'est un des shoots de l'année. On a du mal à en voir beaucoup. Hein.
Ouais.
Des shoots comme ça avec les appuis qui regardent la touche et puis ça rentre quand même. C'était magnifique. Et malgré tout, on a vu la domination canadienne au final sur la prolongation qui était beaucoup plus physiquement en place. Et qui ont
bien fait pour les États-Unis.
Ouais, ça va être ma question après. Vas-y, Nico, je te laisse argumenter sur la prolongue si tu veux.
Ouais, c'est surtout sur l'ensemble du match. Les Canadiens ont fait que des runs et à chaque fois les USA sont revenus. Mais à chaque fois ils sont montés à plus 10. Enfin, ils dépassaient les 10 points d'avance, les États-Unis revenaient, etc. C'était un peu le chat qui court après la souris. Mais en fait, les Canadiens ont globalement géré le match. Donc, hormis la petite erreur sur l'action pour la prolongation où ça aurait pu leur coûter la victoire, mais pour moi, ils ont fait largement le taf sur un style de jeu, encore une fois, avec des possessions très courtes et beaucoup de jeux rapides. Donc, ils ont quand même géré le match. Donc, la victoire, elle aurait mérité. Quoi.
Américain, quoi. Enfin, un style de jeu des USA.
Après, c'est tous des mecs qui jouent en NBA. Hein.
Oui, je suis d'accord.
Ils savent faire.
Par contre, on a grave vu le style NBA, puisque côté canadien, on a deux gars qui dépassent les 30 points, entre Shai qui est à 31 et comme on l'a dit, Brooks à 39. Et il y a quand même 23 points d'RJ Barrett qui ont dû faire plaisir à Vincent, avec des pourcentages plutôt corrects.
Il n'y avait que des tirs importants pour Barrett. Plus 21.
Il est de 21.
C'est énorme. Sur un match comme ça, c'est énorme.
Donc ouais, ça a été... en fait, c'est lui qui a le meilleur avec Lugansdort qui a 25. Mais en même temps, Lugansdort, quand il est sur le terrain, forcément, ça aide aussi.
Plus de points, quoi.
Donc voilà, moi j'ai une question, parce que du coup, comme on l'a dit, les USA ne remportent pas de médaille une nouvelle fois sur cette campagne de Coupe du Monde. Les gars, j'ai une question pour vous. La nouvelle génération américaine serait-elle beaucoup moins forte évidemment que les années précédentes côté Riken, mais surtout est-ce qu'en fait le basket européen serait pas plus fort que la nouvelle génération américaine? Vas-y Rémi.
Moi je dirais pas que c'est plus ou moins fort, il y en a certains qui vont défendre cet argument en disant ouais mais ils ont envoyé l'équipe D, etc. Ça pour moi c'est des conneries, ça reste quand même des joueurs de NBA, des joueurs de très haut niveau, etc.
Il y a du All-Star.
Voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils n'ont pas envoyé tous les Jason Tatum, Trae Young, enfin, vraiment les grosses stars de la nouvelle génération, certes. Je dirais pas qu'il est plus ou moins fort, pour revenir sur la question. Je dirais que ça s'équilibre. Je dirais surtout que le basket, c'est un sport américain, ça c'est clair, on le sait depuis longtemps. mais que le reste du monde, en fait, il s'adapte au fur et à mesure. On a de plus en plus de joueurs qui sont en NBA en Europe et même dans le reste du monde. Et en fait, juste, le niveau se rattrape, en fait. Parce que quand tu vois le niveau de jeu du Canada, il y a beaucoup de joueurs de NBA, mais il n'empêche que le Canada, en fait, ils les ont battus, c'est pas pour rien. L'Allemagne, ils ont été, bon, du coup, petit spoiler, l'Allemagne est champion du monde avec un niveau de jeu qui est incroyable. Et pourtant, il n'y a pas tellement de joueurs de NBA en Allemagne, mais pourtant, ça joue extrêmement bien. Non, moi, je pense juste que le niveau, en fait, il s'équilibre. Et c'est une bonne chose.
Nico ?
Moi, je suis un peu d'accord avec Rémi. Le niveau s'équilibre, mais ça s'équilibre aussi parce que, comme on l'a dit, c'est quand même l'équipe C qui arrive. Et je pense, même si c'est des joueurs de qualité, que l'équipe est mal construite et on a une faiblesse intérieure.
Mais ça a été mon argument après.
Dans les USA ces dernières années, qui fait que les équipes européennes, notamment, qui sont, eux, fortement basées sur du jeu avec des intérieurs qui ont dû toucher, enfin le basket européen en général, Euroleague.
Ils sont capables de fixer, passer.
L'intérieur, c'est un des postes les plus importants dans le jeu européen en tout cas.
Et en fait, c'est une faiblesse que les États-Unis n'arrivent pas à gommer, en fait. Donc après, c'est sûr que si tu ramènes l'équipe A, comme on va l'avoir l'année prochaine au JO, comme c'est parti, en fait, là, je pense qu'il n'y a même plus d'équilibrage, tu vois. C'est plus ça, moi, qui... Je pense qu'il y a une mauvaise construction de l'équipe.
Ouais, mais malgré tout, je suis d'accord avec ça, sauf que du coup, tu peux jamais préparer la relève non plus, tu vois. Il y a ça aussi.
Ah mais moi je trouve ça très bien, c'est ce que je dis juste, et je trouve qu'ils ont le potentiel et le talent pour faire du résultat, en tout cas plus que ce qu'ils ont actuellement, mais c'est surtout qu'il leur manque, je pense, un vrai secteur intérieur.
Ouais. Voilà. Vas-y Vincent.
Alors moi je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous dites, parce que c'est l'équipe C, parce qu'il manque des intérieurs, enfin ça je suis ok là-dessus. Mais par contre moi en fait il y a un truc qui m'a mécontenté en fait, c'est qu'en fait les États-Unis, je pense que si c'est coaché, c'est la meilleure équipe du monde. Est-ce que vous avez
ça joue aussi, ouais.
Est-ce que vous avez vu Steve Kerr coacher pendant la Coupe du Monde? Personne.
Ah non, il fait des rotations quoi.
En fait, le truc c'est qu'il fait les rotations, ok, les mecs ils jouent, et en fait ils se basent sur les talents individuels des mecs. Il y a rien qui est en place, il y a pas de plan de jeu, il y a pas de plan défensif, il y a rien du tout.
Il y a pas d'adaptation.
Normalement, les États-Unis c'était une équipe, mon gars, avant jusqu'en 2016 là, c'était des équipes, tu les jouais, tu mettais même pas 80 points. Là, le Canada ils en ont mis 127.
Et ça, en fait, ils ont pris 240 points en deux matchs.
Et en fait, le problème c'est que les mecs ils défendent plus. Il y a plus de et parce que c'est pas coaché. Steve Kerr, il a pas coaché de l'été.
Il y a un fait qui me fait penser à ça. Vincent, t'as raison. J'ai tilté devant la télé quand j'ai regardé lors de la petite finale quand les USA reviennent. Il me semble quand ils reviennent à deux possessions, il y a un temps mort canadien et on voit sur le temps mort notre cher Steve Kerr qui donc comme d'hab il discute avec ses seconds pour voir qu'est-ce qu'il dit aux gars. Il s'assoit sur sa chaise et la seule chose qu'il leur dit: les gars, pensez au box-out. Voilà.
Non mais c'est ce que je te dis. Le mec a pas coaché. Et au final, certain...
Il donne un système...
Moi, je suis certain que tu mets quelqu'un qui va coacher cette équipe. Je vous assure qu'ils sont champions du monde. Parce que là, il y a que des talents hein, dans l'équipe, on peut dire ce qu'on veut. Alors oui, ça manque peut-être de grands. Oui, c'est l'équipe C. Mais les mecs...
Non, t'as des vrais talents.
Pour moi, c'est l'équipe B.
Individuellement, il y a des talents de ouf. Et pour moi, au final, c'est juste que ça n'a pas été coaché. Que les mecs ont joué que sur leurs talents individuels qu'ils ont. Parce que regarde, on regarde sur le match contre le Canada, Anthony Edwards, il met 24 points. Austin Reeves, il met 23 points. Mais regardez Austin Reeves, bordel de merde. Regardez les matchs.
Il est ciblé.
Il est ciblé, mon gars. Et sauf que les coachs adverses, eux, ils le savent. Et eux, les coachs adverses, ils coachent. Ok, il y a Austin Reeves sur le terrain. Vous envoyez des pics pour qu'ils changent. Parce que les Ricains, ils se font même pas chier. Ils disent quoi? Bon, allez, on va changer sur tous les pics.
Bah, oui.
On a vu qu'on n'a pas le grand, on change sur tout. Très bien. Et du coup, on va changer sur tout. Les autres équipes en face. Bon, vas-y, Schroeder. Prends le pic pour que ce soit Austin Reeves qui défende sur toi. Très bien, il peut pas défendre sur toi. Terminé, fin de chantier. Et c'est que ça, en fait.
Et vu qu'il y a pas d'aide derrière.
Vu qu'il y a rien. Et au final, les États-Unis se sont fait défoncer. Contre l'Allemagne, en demi-finale, ils se font exploser par la raquette. Daniel Theiss, il leur a marché dessus en début de match. Et au final...
Daniel Theiss, c'était Magic Johnson sur ce match.
Voigtman aussi. Et alors, après, c'est sûr que la raquette des Allemands, quand tu sais que ta raquette, c'est... moi, j'ai regardé beaucoup des matchs de l'Allemagne, c'était Theis et Voigtmann. Et en fait, en rotation, c'était Thiemann et Wagner.
Ouais.
Donc en fait, tu ne baisses jamais d'intensité en fait, dans tes rotations.
Avec des Golgoth qui savent passer la balle, qui ont du move,
qui ont du shoot.
Donc, en plus. Mais pour moi, le gros problème des Américains là, sur cette campagne-là, c'est Steve Kerr. Alors oui, le truc, c'est qu'en fait, avant, je pense qu'il y a eu des équipes où tu n'avais pas besoin de coacher, en fait. En 2008, vas-y, laisse Kobe, LeBron ou D-Wade, Kevin Durant faire un joujou avec, avec la baballe, là. Puis de toute façon, dans tous les cas, les mecs,
parce qu'en 2008...
ils sont tellement forts individuellement que, oui. qu'en fait, là, eux, ils domineront.
Et en 2008, t'as Dwight Howard dans la raquette, qui sort deux saisons de folie avec le Magic. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Quand les États-Unis performent, ok, ils ont toute la smala et c'est individuellement, c'est trop fort. Sauf qu'à chaque fois, ils ont un pivot dominant. Que ce soit Tyson Chandler 2012, que ce soit Dwight Howard 2008, Pat Ewing quand il était là, du Anthony Davis sur les campagnes donc 2016 et 2021, pour les JO de 2020 et 2021. Et là, les seules fois où ça ne performe pas, c'est parce qu'en 2019, tu as Miles Turner, qui n'est pas un vrai pivot, qui joue qui se fait exploser par Rudy Gobert en quart de finale. Voilà, hein, si Rudy Gobert explose la raquette américaine, c'est qu'il y a un souci aussi.
C'est un vrai souci, ouais.
Et là, du coup, tu joues avec Walker Kessler et Jaren Jackson Jr., qui sont. Jaren Jackson Jr., en FIBA, on a vu des limites. Il va mettre des gros contres et tout, mais en fait en attaque il est pas assez bon et pas assez utilisé. Et en dehors de ça, il y a un seul pivot qui a été hyper intéressant sur le tournoi américain, c'est Bobby Portis. À chaque fois qu'il rentrait, il faisait une putain de différence parce qu'il amène ses coudes, il amène son petit shoot, il monte la volonté, mais il est pas assez utilisé et pas assez comment dire, il y a pas un nom assez portant pour être titulaire dans Team USA. Mais malheureusement, c'est le seul qui a eu, je trouve, l'impact qu'il aurait dû avoir. Ouais, Nico.
Tu parlais d'intérieur pas utilisé. Le seul intérieur pour moi qui aurait mérité du temps de jeu et du coaching, c'est Kessler. Parce que lui, on sait, c'est un bûcheron. Il t'aurait fait du sale. Et en plus, il a un petit jeu de passe et tout. Je pense qu'il, si le, il y aurait eu du coaching sur lui avec des systèmes autour de lui.
Il peut tourner en 15-15. Hein.
Bah, facile.
Rémi ?
Moi, je veux revenir sur ce qu'on disait sur Steve Kerr. Moi, j'ai une question parce que j'en ai vu plein sur les réseaux dire ouais, Steve Kerr, en fait, est-ce que c'est un bon coach que quand il a Steph Curry, Draymond Green et tout
non,
dans son équipe ?
Non, arrêtez.
Ouais, non, mais voilà. C'est pour ça que je veux mettre court à ça parce que je trouve que c'est un peu facile. Attention, ça reste quand même un très bon coach. Il a été mauvais sur cette Coupe du Monde, par contre, il faut le dire. Ça, c'est vrai. Oui. Moi, surtout, la grosse question que j'ai, c'est est-ce que juste les Ricains, ils sont pas tellement égocentriques qu'en fait, ils s'en foutent du reste du monde ? Ils ont pris tout le monde de trop haut parce que c'est les Ricains, donc c'est leur sport, donc ils sont meilleurs. Et qu'en fait, ils ont pris la réalité en pleine face et ça leur a fait tout drôle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein.
Ouais, je pense aussi. Le niveau du basket mondial évolue. Et en fait, maintenant, ils ne peuvent plus uniquement se baser sur leur talent individuel pour gagner des compètes. En fait, maintenant, il y a trop de... Dans les équipes internationales, il y a trop de coaching et trop de joueurs qui savent pourquoi ils sont là. Trop de joueurs qui, quand ils mettent le maillot de leur équipe nationale...
Ils ont faim.
C'est plus les mêmes joueurs.
Exactement.
Parce que on prend l'exemple de Dennis Schroeder. C'est un bon joueur NBA. C'est un role player NBA.
C'est un bon moyen joueur. Il n'est pas incroyable en vrai.
Voilà, exactement. En FIBA, c'est un des meilleurs joueurs du monde.
Bah ouais, mais parce qu'il a le cœur à l'ouvrage. Il a le cœur à supporter l'Allemagne, à mettre son pays sur le bord du monde.
Il fait un tournoi, on aurait dit Tipeee 2013, gros.
Mais complètement.
Nico ?
C'est comme les deux dernières campagnes de Ricky Rubio au JO et en 2019.
Exactement.
Il est incroyable.
Exactement, alors que Ricky Rubio
est le meilleur joueur du tournoi du dernier championnat de 2019, ouais, du tournoi
2019, du championnat du monde. Mais alors que Ricky Rubio
il
avait
été monstrueux.
Alors que Ricky Rubio en NBA, c'est quoi ? C'est un backup à la main en fait.
Bah ouais.
Ah bah
juste quand il a le maillot espagnol sur les épaules,
et quand
c'est
quand il a le maillot espagnol, c'est
ça devient Ricky Rubio.
Ricky.
Non mais du coup c'est voilà, je pense que les Américains, il va falloir, et peut-être que ce sera dès l'année prochaine, parce qu'avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, qu'il y allait avoir certains gros noms qui allaient vouloir
logiquement remettre. Ce serait la dernière campagne de LeBron James.
Non mais ça serait incroyable, ça. Vraiment à Paris,
ça va arriver, c'était
LeBron James qui se réveille pour les JO de l'année prochaine, et j'ai vu aussi qu'il y aurait Curry, Durant qui pourraient être motivés.
Curry,
du
Durant,
coup,
Kyrie,
il y aurait la grosse armada,
Kyrie.
On aurait la retour... Redeem
S'il y a le retour de Carmelo, Oh là là.
Oh non, bah peut-être pas quand même.
Parce qu'en ils ont gagné du coup.
Parce qu'en fait, le
Carmelo, on est baisé.
S'il y a retour de Carmelo, en fait, il y a retour du meilleur joueur de l'histoire FIBA. Donc,
c'est vrai.
Donc, c'est vrai. Bah, alors autant des fois, j'abuse un petit peu quand je parle de NBA avec Carmelo Anthony, mais autant joueur FIBA, je pense qu'on est dans.
Non. Ah non, là, je suis
dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire.
Ouais. En vrai, il y a moyen, ouais.
Dans le FIBA, je pense que si je dois faire un 5 majeur FIBA, je n'hésite pas une seconde à mettre Carmelo dedans.
Tu sais quoi, ça peut être une idée d'émission, ça.
Ouais, de ouf.
Oh, elle est belle. Oh,
mais oui. 5 majeur FIBA. Oh là là là. Oh, le backcourt Dennis Schroeder, Ricky Rubio.
On peut faire un top 5, top 10. On peut faire une petite émission là-dessus, ça peut être rigolo, ouais.
Oh, les mecs,
tu sais quoi, c'est noté.
Moi, ouais, j'ai un petit blasphème, là, histoire d'énerver un peu Vincent. C'est beau de faire des gros matchs contre le Nigeria.
Super,
la perf qui fait.
Ouais, faut quand même mettre 10-3 points. Quand même.
En 15 minutes.
Bien sûr, je rigole. Faut quand même mettre 37 points en 14 minutes, quand même si c'est que contre le Nigeria.
Allez, les gars, on va pas s'attarder sur Team USA, c'est pas le sujet de l'émission. Puisque malgré tout, il y avait une super finale entre les Serbes et les Allemands. Finale 100% européenne. Le titre mondial qui revient une nouvelle fois sur le territoire européen. Et quelle finale on a eu avec de l'intensité pour aller marquer un panier en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que c'était dur. Malgré tout, on a eu un match super serré en première mi-temps avec les deux équipes qui se rendaient coup pour coup. À la pause, les deux équipes sont à égalité, il me semble, ou peut-être un seul point d'avance.
Plus en Allemagne.
Voilà, c'est ça, plus en Allemagne. Et en deuxième mi-temps...
Non, égalité, égalité, pardon.
47 partout.
Ah, 47 ouais, partout. Voilà, j'avais raison.
Je sais pas compter.
47 partout à la mi-temps.
Hein. Il m'a induit en erreur. Mais du coup, en deuxième mi-temps, l'Allemagne qui a réussi à prendre un peu l'ascendant suite à un beau troisième quart-temps, gagné 22-10, c'est pour dire que quand tu maintiens ton équipe à 10 points marqués sur un quart-temps en finale, c'est que bon, c'est compliqué de marquer. Et en fait, les Serbes qui, sur le quatrième quart, ont commencé à se révolter aussi. Quelqu'un enchaîne ? Non. Merci. Merci de me soutenir.
Non,
la transition est les gars, vous le dites, je fais l'émission tout seul, hein, mais juste, je suis au courant comme ça.
Mais non. Alors, autant le match d'avant, on a parlé de Steve Kerr qui ne savait pas coacher, autant là, waouh.
C'était magnifique.
Bah, en fait, le magnifique truc, c'est qu'en fait, les coachs s'adaptent de ouf. Regarde ceux qui ont vu la finale, vous allez pouvoir regarder. Quand Schroeder est sur le terrain, ce n'est pas forcément lui qui monte la balle, par exemple.
Ah bah et non, oui. C'est même pas lui, quasiment pas, qui a
monté la balle. C'est souvent Franz Wagner qui la monte.
Et là, ça a été Isaac Bonga.
Ouais, c'était Bonga qui l'a monté, surtout.
Il a failli faire perdre le match, quand même.
Mais du coup, c'est oui aussi, mais...
C'est super intelligent de la part de l'Allemagne de faire monter la balle à Bonga pour reposer Schroeder.
Ah, c'est ça, parce qu'on sait très bien que Schroeder, s'il doit monter la balle et qu'il y a Avramovic là, qui va défendre comme un malade tout terrain, là...
Ça fatigue.
Tu laisses de la gomme. Au final, du coup, bah voilà, tu vois, ça a été vraiment coaché. Moi, je trouve que celui.
Ouais, puis attends, je rebondis là-dessus, j'en profite là.
Ouais, vas-y.
L'intelligence de jeu de reposer Schroeder à la main en laissant Bonga pour qu'en deuxième mi-temps, Schroeder il défende sur Bogdanovic et qu'il pointe 0 points en seconde mi-temps.
Si, il met 2 points, je crois.
Ah, 2 points
Ouais, il met 2 points en deuxième mi-temps.
C'est à la toute fin.
Il met 2 points possible. À la fin.
Et il met.
Claquette, je crois.
C'est ça.
Et s'il marque pas de points, enfin s'il met que 2 points seconde mi-temps, c'est même pas parce que ses shoots ils rentrent pas ou quoi que ce soit. C'est parce que Schroeder, en fait, il l'empêche d'avoir le ballon tout le long. Ouais. Incroyable.
C'est vrai, c'est vrai.
Je te laisse enchaîner, du coup, Vince. Je voulais rebondir là-dessus, juste.
Ouais, non, mais t'as raison. Enfin, j'avais fini de parler, j'allais revenir là-dessus aussi. Mais en fait, la première mi-temps a été ouf parce que... beaucoup de enfin les deux équipes mettaient dedans et ouais. Pas parce que ça défendait pas hein.
Non
on va pas se mentir hein.
Les tirs de Bogdanovic qui met au premier quart
pas parce que ça défendait pas mais parce que ça rentrait des gros tirs vraiment et en deuxième mi-temps bah forcément avec la fatigue avec l'enjeu du truc bah forcément ça il y a un peu moins de tirs qui rentraient. La deuxième mi-temps était même si ça mettait pas dedans il y avait tellement d'engouement en fait de trucs
c'était passionnant.
En fait, tu restais dans le match, en fait, ça t'entretenait.
C'était alors de la tactique final, défensive aussi. Hein, au final.
Quand tu re-regardes la deuxième mi-temps maintenant, là, tu te dis, wow, ça met quand même pas un paneton, c'est quand même pas ouf. Hein. Mais au final, en fait, dans l'enjeu, bah, en fait, ça rend le match extraordinaire. Tu vois. Et c'est ouf parce que c'est deux équipes européennes qui nous offrent ça. Et ça montre que bah, le niveau européen reste très très haut.
Moi, je voulais qu'on s'attarde sur notre cher Dennis Schröder qui a fait un money time de feu, qui a été vraiment trop fort sur l'ensemble du tournoi. Donc, ouais. Comme on l'a dit, l'Allemagne a remporté le match et donc championne du monde avec une victoire 83-77. Ça montre aussi la différence de score entre la petite finale et la grande finale. C'est assez drôle de voir ça. Deux styles vraiment différents.
Parce que du coup, par au petite finale, je viens de compter là. 117 shoots pris au total pour la finale, 165 pour la petite finale. Il y a une mi-temps en plus pour le Canada.
Et il y a une prolongation.
Ah, il y a une prolongation. Ouais, mais c'est pareil, la prolongation de la petite finale, les Canadiens, ils mettent 16 points en prolongation en 5 minutes. Ouais. C'est pas possible, enfin, c'est pas normal. Enfin, mec, t'as une médaille au bout, tu prends 16 points en 5 minutes, mais...
Faut pas avoir envie. En tout cas, les Allemands qui remportent cette finale, cette grande finale, et qui, du coup, remportent leur titre de champion du monde, avec un Dennis Schröder, comme je l'ai dit, MVP du tournoi. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bien qu'il donne le MVP de la rencontre à Franz Wagner pour pas donner deux trophées au même joueur. C'est pas mal, ça récompense aussi pour l'ensemble de la... du tournoi malgré tout, même s'il fait vraiment une bonne finale avec malgré tout des pourcentages un peu moins bien, mais il a quand même fait son 10 sur 11 au lancer qui était important sur la fin de match, donc voilà. Et surtout Dennis il a mené son équipe, comme j'ai fait le comparo tout à l'heure avec Tony Parker, mais c'est vraiment ça en fait, c'est que ce tournoi, les Allemands, c'est la seule équipe qui a pas perdu. C'est la seule équipe qui a été, je trouve, au niveau, sauf face à la Lettonie, mais qui globalement dans le niveau global du tournoi était vraiment au-dessus. Il n'y a pas eu de gros moments de creux. Et en fait, je trouve que c'est un super champion qu'on a là. Ouais, Rémi ?
Ce que je disais tout à l'heure, l'Allemagne qui avait des hauts et des bas sur l'ensemble de la compétition, en finale, pas du tout. Ils sont restés au même niveau tout du long. Ils sont restés très bons.
C'est sur le tableau final, en fait, qui sont, à part la Lettonie, en quart. Mais sur le tableau final, demi et finale, ils ont été majestueux.
Ouais, c'est vrai. Ouais, demi-finale aussi. Ouais, c'est plutôt vrai. Mais du coup, sur la même ligne, très bon tout du long. Grosse défense, bonne attaque, énorme leadership de la part de Dennis. Dennis la malice.
Dennis la malice.
Et du coup, exemplaire.
Bah ouais, carrément. Nico ?
Non, mais moi, je suis un peu, un peu d'accord avec ce que Rémi dit, mais pas vraiment, parce que pour moi, le match contre la Lettonie, le seul point noir, c'était Schröder, parce que sinon, le reste, tout le monde a été au niveau. Et je pense qu'en fait, la force de l'Allemagne cette année, c'est d'avoir une richesse et une confiance. Si tu enlèves Schröder, en fait, les mecs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont tous... très bien joué sur l'ensemble du tournoi, et le seul match où ils ont failli passer à la trappe, c'est juste leur leader qui a joué 30 minutes et qui a pris 20 tirs. Ouais,
qui a pas eu d'adresse.
Et qui a rien mis. Ouais, voilà. Donc pour moi, l'Allemagne, en cette qualité-là, l'Allemagne a été incroyable d'avoir les frères Wagner, Voigtmann, Obst, pardon, qu'on fait une compète de malade. Daniel Tass,
de toute façon, tu peux pas être final, champion du monde trop, en comptant sur un seul joueur.
Ah bah non, mais...
Bah, sur Carmelo.
Ouais, sur Max, sur Carmelo. mais juste incroyable, la force collective de l'Allemagne. Et puis on a pris une orgie de basket en finale, c'était quand même incroyable. Ouais, tu disais tout à l'heure, Vince, tu disais tout à l'heure que la finale, la deuxième mi-temps était pas ouf. Mais en fait, quand tu regardes chaque action, c'est tous des morts de faim, quoi.
Ah bah c'est une guerre de tranchées. Hein.
C'est incroyable. Et le taf des coachs, oh là là, c'était magnifique.
Regardez la finale de Maurice Wagner. Il joue 16 minutes, c'est un bûcheron. C'est terrible. Mais après, c'est pareil, moi, je rajoutais un truc. C'est que l'Allemagne a aussi eu de la chance de récupérer Franz Wagner, en fait.
Ah oui, parce qu'il aurait pu être out sur tout le tournoi.
Mais en fait, il aurait pu être out sur tout le tournoi, et il est revenu quand ? Le match contre la Lettonie ?
C'est ça.
C'est le match contre la Lettonie ou
c'est là où Schröder est pas bon et lui
justement où Schröder est pas bon et il sort de sa boîte
il sauve le match
et il revient de blessure et il sauve le truc. Je pense que l'Allemagne peut aussi remercier Franz Wagner. Après les blessures, on sait que ça
fait partie du jeu.
Ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que je pense que sans Franz Wagner, je suis pas sûr que mais bon, après avec Dessy on refait le monde. C'est pareil, si la Serbie avait eu Nikola Jokic,
Ouais, c'est ce que j'allais. Moi, j'allais y venir à ça.
Et bah, je suis pas sûr qu'ils jouent au mieux avec Nico. Parce que la dernière campagne.
Ouais, ils ont très très bien joué là.
À l'Euro avec Nico.
Ouais, ouais, ils ont très très bien joué.
Ils ont pas été très bons.
Ouais, c'est sûr, mais après, je pense que c'est pareil. En fait, c'est là l'Allemagne. Pourquoi ils sont champions du monde aussi? Parce que c'est un groupe qui a déjà vécu ensemble, en fait.
Ah
là,
oui.
Tu prends le groupe de l'année dernière à l'Euro et tu prends le groupe de là, il n'y a pas de changement quasiment.
Non, il n'y a pas de changement. Juste les mecs, ils ont évolué, ils sont devenus un peu meilleurs, ils ont davantage appris à jouer ensemble.
Ils se connaissent déjà et en fait, je pense que c'est pareil pour la Serbie. En fait, si tu rajoutes déjà Jokic et qu'il va faire plusieurs compétitions internationales, et bah, du coup, les mecs vont se connaître encore plus, ils vont être habitués à jouer ensemble encore plus. Et je pense
ouais,
que
mais vu que l'autre il va aller en... l'autre il fait la fête tout l'été avec Aaron Gordon, donc forcément tu peux pas tout faire.
Mais de rajouter un mec comme Nikola Jokic qui est un petit joueur basket sympa, bah voilà quoi, je pense que ça change quand même ton équipe quoi.
C'est sûr.
Même si là les Serbes ont vraiment bien joué au basket, et moi je me dis bah en rajoutant une pièce comme Jokic là-dedans et un mec comme Jokic, un mec comme Vasilij Micić qui ouais. est un des meilleurs meneurs en Euroleague.
Il ouais. a beaucoup manqué là.
Il a manqué. Hein.
Il a fait mal. Hein.
Et bah voilà, en fait, tu rajoutes juste ces deux pièces maîtresses là. Ça peut être encore. Là, on se dit que les Serbes font finale. Et il manque des joueurs majeurs quoi. Donc ça.
Belle perf aussi hein, en finale.
Ah, c'est une grosse perf pour les Serbes.
On les attendait vraiment. Très gros applaudissement pour les Serbes. Hein.
Ouais, on les. Enfin, perso, moi, je les attendais pas à ce niveau là sans leurs joueurs majeurs.
Ouais. Nico ?
Non, bah, c'était bon. Tout a été dit.
Bah, je sais ouais, pas, t'as levé la main.
Ouais, okay. Non, mais j'avais un truc à ajouter, mais non, c'est bon.
Ok. Du coup, ouais, un super champion, une super deuxième place pour la Serbie. Mmh. Le Canada qui a pris sa médaille malgré tout, parce que je pense que sur l'ensemble du tournoi, c'est mérité aussi.
Un très beau podium.
Ouais, carrément, je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce mondial avant qu'on clôture cet axe ? Nico ?
Alors, on fait un peu un top, c'est ça, hein, du mondial, c'est un peu l'idée.
Ouais, si tu veux, ouais, donner
c'est un peu l'idée. Eh ben, je suis complètement tombé amoureux du jeu laiton.
Les laitons. Avec comme beaucoup, je pense.
Qui avait pas de grosses stars, mais juste ils
un ont collectif de grands
malades. Zaga.
Ils ont joué au basket, quoi. Et ils terminent cinquième. Ils ont fini cinquième. Donc devant la Lituanie, devant la Slovénie, devant la France, RIP,
devant l'Italie,
et juste quel basket ils ont proposé quoi. J'aurais tellement aimé que le shoot de notre cher Bertens rentre.
Ça aurait été majestueux.
Les voir avec une médaille, j'aurais été comme un ouf. Mais ouais, voilà, ça c'est mon
d'ailleurs
mon point positif.
Petite précision pour rajouter à ça, Zagars, le meneur letton qui n'avait pas de contrat avant de jouer le mondial, va certainement signer au Fener. On le verra en Euroleague.
Ah, comme quoi les compétitions internationales, ça peut servir. Hein.
Ouais.
on verra. Non, mais... si... Bah, c'est pas comme ça qu'Evan il va choper un tournoi, un contrat, pardon.
Oh, salaud.
Non, mais au final, quand on regarde, c'est ouf parce que c'est vrai qu'en fait, là, pour des clubs d'Euroleague, bah, comme le Fener, en fait, qui est déjà habitué à l'Euroleague depuis X années, un mec comme Zagars, on voit qu'il peut déjà jouer dans le jeu FIBA, qu'il peut être déjà influent alors qu'il n'a que 23 ans. Donc au final, en fait, c'est aussi un pari sur l'avenir, en fait. Tu prends, je pense qu'en plus de ça, étant donné qu'il n'a pas de contrat, il ne devait pas demander un salaire faramineux non plus. En fait, c'est une bonne pioche là pour l'équipe qui va le signer. Ça sera vraiment une bonne pioche.
Déjà, et puis pour lui aussi, du coup, parce que tu rejoins l'Euroleague, c'est clairement dans ce genre de compétition qu'il faut qu'il évolue parce qu'il en a le talent en tout cas.
Bon, ouais, voilà, ça c'est qu'on a vu qu'il avait le talent, donc autant qu'il évolue là. Quoi.
C'est clair. Vas-y, Rémi. Ou Vincent, peu importe.
On n'a pas précisé le 5 du tournoi.
Ah, on peut le faire.
D'ailleurs, ça n'a même pas été un 5 majeur, en fait. Ça,
non, c'est que des meneurs.
C'est plus un 5 All-Star, ils disent ça. Donc, il y a Denis Schroeder, Luka Doncic, Bogdanovic, Anthony Edwards.
Et Shai Gilgeous-Alexander.
Ouais, il n'y a vraiment que les postes dedans.
Ah, et aussi, je voulais en parler quand on a parlé de la petite finale. Du coup, notre cher Dylan Brooks, aussi détesté qu'il est, moi perso, je l'aime toujours, hein. Mais il avait annoncé être défenseur de la compète. Il a été élu défenseur de la compète.
Ouais, c'est mérité. Ouais.
Mérité sur l'ensemble du tournoi. Pas surpris du tout que ce soit lui qui reparte avec.
Non, c'est pas déconnant.
Mais en fait, c'est ce qu'il disait. En fait, il a dit en interview là, qu'en fait, il se créait un personnage de vilain, en fait, de de bad boy. Enfin, il l'a dit, c'est lui, c'est il aime trop le trash talk et tout. C'est même pas que, en fait, il veut que les gens ne l'aiment pas en fait.
Bah, en vrai, moi, ça marchait bien, mais sur ce tournoi, il m'a donné envie de remonter dans le wagon un peu parce que
ouais, non, vraiment pas.
Le coup des gants après son expulsion ouais, et tout, non, ça, c'est genre le truc, ça me fait trop
drôle. Non, vraiment, j'ai vraiment envie de lui tirer ses couettes et de lui taper sur la tronche. Vraiment, c'est vraiment, je n'en ai rien à foutre. Tu mets 39 points, je m'en branle. Je vraiment, c'est terrible.
Ah, je te rassure, si Dylan Brooks, il te met 39 points dans le match, en général, c'est que t'as perdu.
Ouais, bah oui, parce que oui, c'était pas Noël tous les jours. C'est...
Ouais, voilà.
Après, c'était peut-être Noël au Canada. Noël au Canada, les Canadiens, vous avez des cadeaux ou...
Médaille de bronze. Le cadeau, c'est la médaille de bronze.
Exactement. Médaille de bronze, cadeau. Bof, 39 points de Dylan Brooks. C'est pas dégueu. Parce que je crois que la dernière fois qu'il avait cumulé 39 points, c'était en 73 matchs NBA, hein, normalement. Hein,
Ça, celle-là, elle est pour Miguel.
Miguel, c'est pas ouf. Là, Houston, il va faire une saison à mettre 39 points.
si ce n'est deux.
Après, 39, c'est plutôt le nombre de briques qu'il envoie, par contre, de base. Mais bon, après, comme ça.
Ou le nombre de peintres dans la franchise de Houston, mais c'est pareil. Du coup, c'était ce que tu voulais retenir, ta dernière chose que tu voulais dire, Vincent, ou tu veux ajouter un truc sur le tournoi global? Ton coup de gueule?
Moi, je ferais bien un coup de gueule, mais on a déjà fait une émission d'une heure sur l'équipe de France.
Ouais, exactement.
Non, ouais, du coup, si vous voulez nous entendre rager, allez écouter la première émission de la saison.
Non, moi, j'ai un autre coup de gueule, moi. C'est sur Luka Doncic.
Ah.
Ouais.
Parce qu'en fait, je suis vraiment fan de ce mec. Hein, vraiment, il est vraiment trop fort, il a trop de talent, il est trop tout. Mais en fait, il est imbuvable quand il commence à partir dans son délire de parler aux arbitres et de sortir de ses matchs et tout. Et ça, moi, vraiment, ça me saoule à un point, vous imaginez même pas. Le mec a tellement de talent et il gâche ça avec un comportement de merde et ça me saoule. Donc, c'est ça mon coup de gueule, moi, pour ça.
Enfant gâté.
Parce que je pense que, ouais, vraiment. Parce qu'en fait, je pense que sans ça, la Slovénie, en fait, ils peuvent faire bien mieux que ce qu'ils ont fait, en fait.
Ouais. Arrête de chercher des excuses et va sur le terrain, quoi.
Game, envoie-en 40 à chaque match, il faut en fait, on n'a rien à secouer. Mais justement, mais envoie-en 40 en fait, genre.
Mais pleure pas à chaque action.
Fais-moi avoir une petite golasse, tu vois, genre à chaque fois que tu mets un panier, tu vois, mais arrête de pleurer, c'est chiant.
C'est déjà le cas, Vincent, ça.
Oui, c'est vrai, mais bon.
redescend direct parce qu'il se plaint.
Ouais, exactement. En fait, le mec, il arrive, il met un shoot avec la faute, il met un truc, il a même pas regardé le panier, hop, tricasse. Et après, derrière, le mec, il pleure, bah, ça descend direct.
C'est chiant. La morale de cette histoire, faut que Lucas nous donne une trick de 40 minutes, s'il vous plaît.
Exactement. Tu vois, la dernière trick de 40 minutes qui m'a foutu, c'était quand il a joué contre New York cette année et qu'il a fait 61-20. Super, j'ai eu la trick tout le match. Hein. Super, mais c'était contre New York, pas ouf.
Et toi, Révi, c'est quoi ton image de tournoi? Est-ce que tu veux retenir?
Bah écoute, moi, mon coup de cœur là, c'est que j'ai un pote à moi qui est à Francfort en ce moment même et il m'a envoyé quelques photos. Ça a l'air de plutôt bien se passer, donc je lui souhaite de bien faire la fête et de bien profiter de cette parade.
Je pense que les Allemands, ils vont se régaler là. C'est un Oktoberfest.
La bière va couler à flot.
Ouais. Avant l'heure.
L'Oktoberfest commence dans une semaine, donc en fait, là, tu vois, c'est la soirée d'ouverture.
C'est ça.
C'est la pré-saison. C'est la Summer League. C'est la Summer League de l'Oktoberfest.
Eh bien, moi, ce sera tout simplement le triomphe du basket européen. Entre les champions, les finalistes, on a aussi les Italiens qui ont fait un super parcours, les Lettons, comme Nicolas dit. Donc, non, vraiment, très content de cette compétition. Les Lituaniens aussi qui ont fait, malgré tout, un bon tournoi.
Non.
Désolé.
Non, toujours pas.
Au final, dans le top 8, il y a 6 équipes européennes.
Bah, ouais. Donc, et ça, ouais. Pour le coup, c'est révélateur de fou. Donc, bien joué au continent européen. Il faut continuer comme ça parce que si on veut se taper un LeBron James au JO 2024, il faudra avoir de quoi répondre quand même. Si on peut les embêter un peu, ce serait cool.
Moi, j'ai deux matchs pour les JO l'an prochain de basket. Je ne sais pas encore sur qui ça va tomber. J'espère tomber sur une des équipes dont on a parlé aujourd'hui parce que le jeu n'est pas trop dégueu. Ça me ferait, j'avoue, un petit peu plaisir.
Il va te taper un Soudan du Sud contre la Géorgie. Tu vas rien comprendre.
Oui, c'est exactement ce qui va se passer. Avec la chatte que j'ai, je sais déjà que ça va être ça.
Ou alors tu vas te taper Team USA et tu vas avoir LeBron de tes vrais yeux. Et dans ces cas-là, j'inverse les places et je viens à ta place. Comme ça, je peux aller lui faire un câlin.
Pourquoi tu es à poil, Vincent?
Et puis plus dans le vestiaire si Yafnik.
Bon, c'est pas comme ça qu'on récupère le talent des joueurs, c'est sur le terrain.
Ah merde, ah bah ça vaut vraiment, ça retourne, vraiment,
retourne à la gym et va bosser ton shoot, mon cher. Allez, c'est ainsi que se termine cette émission et du coup l'axe sur la Coupe du Monde. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver nos épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. Là, prochainement, dans l'émission, on va essayer de s'organiser pour sortir les previews avant le début de la saison NBA. Donc là, on reprend la saison NBA de plus belle. On va peut-être faire une émission de globale de ce qui s'est passé un peu cet été, parce qu'on a été un peu en vacances et du coup, on a loupé des choses. Enfin, en tout cas, on vous en a pas parlé. Donc on pourra mettre un petit peu de mots sur ce qu'on a kiffé ou pas. Et voilà. Donc on se retrouve très bientôt, j'allais dire sortez tranquillement de votre liste, non, on recommence pas une émission. Vive le basket, vive la NBA, ciao.
Salut tout le monde.
Ciao tout le monde.